Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine par Harold Avraham Weil, monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin.
Bonjour Jean.
Je l'ai fait dans l'ordre grâce à votre téléphone portable.
Oui.
Harold Avraham Weil. Voilà. Nous lirons la paracha demain de Vayeshev, l'allumage des bougies ce soir à 16h15 et demain la fin du Shabbat à partir de 17h29. L'événement de cette semaine, ce n'est pas la finale de la Coupe du Monde. Vous regardez les matchs
aussi, quand même, Jean, là, on parle quand même d'une finale de Coupe du Monde.
Ah, vous suivez la finale?
C'est pas n'importe quoi. Bah, une finale de Coupe du Monde, Jean, c'est un événement. Même pour un grand rabbin.
Voilà, l'Argentine-France, ce sera dimanche à 16h. Et puis, vous pourrez allumer la première bougie de Hanouka. On reviendra sur Hanouka durant cette émission. Comme chaque semaine, nos voeux de refoua chez Dema à nos malades et de Shabbat Shalom aux gens aînés et aux personnes isolées. Et on voulait, monsieur le grand rabbin, vous vous associez à moi pour souhaiter un grand Mazal Tov à Zalman et Perla Journaux, qui ont un petit garçon. Et également, excusez-moi, un grand Mazal Tov à Nathanaël et Judith Selam pour la naissance de leur premier garçon. Ça nous fait très plaisir. Et on souhaite évidemment un grand Mazal Tov aux parents et grands-parents, et particulièrement à Joseph Selam, ancien secrétaire du consistoire, qui est en même temps de ma famille. Ça tombe bien. Allez, on y va. Avant de parler de Hanouka, on va parler de Vayeshev et du résumé.
Tout à fait, Jean. Paracha de Vayeshev, alors une paracha, on le sait, hein, qui certaines années coïncide avec la fête de Hanouka, puisque vous le savez, le calendrier nous propose certaines années deux Shabbat de Hanouka. Et donc, il arrive que Shabbat Vayeshev soit aussi Shabbat Hanouka. Cette année, ce ne sera pas le cas, mais nous lirons cette paracha de Vayeshev, donc la veille de Hanouka. Il y a beaucoup d'allusions, hein, dans cette paracha de Vayeshev à la fête de Hanouka. Le résumé de cette paracha, cette paracha commence par nous parler de la descendance de Yaakov et de quelque chose de tout à fait surprenant, c'est la différence que Yaakov va faire entre Yosef et ses frères. Les rêves de Yosef, hein, c'est un petit peu le point de départ de notre paracha, des rêves de grandeur qui vont attiser la haine de ses frères. Yosef, nous le savons, va être vendu, hein, il y a une décision d'abord de le tuer, finalement Yosef sera vendu, et cette vente, eh bien, va le conduire à se retrouver en Égypte, où commence un périple, hein, qui se terminera dans deux, voire même trois sidrotes, et durant lequel, eh bien, Yosef va être amené à travailler, comme on le sait, chez Potiphar. Il va évoluer. Entre-temps, on nous raconte également une histoire qui est une histoire aussi très très importante dans la Torah, qui est celle de Tamar, celle de Yehuda.
Et de Tamar.
Et puis donc, j'en reviens à l'histoire de Yosef et ce passage qu'il va donc effectuer dans la maison de Potiphar, dans lequel là aussi il va accéder finalement à des fonctions assez prestigieuses. Et à la fin de cette paracha, eh bien, nouveau bouleversement, hein, nouveau renversement de situation, puisque Yosef va se retrouver en prison suite à de fausses accusations portées contre lui par la femme de Potiphar, hein, extrêmement agacée par un Yosef dont elle est éperdument amoureuse et qui refuse, lui, de céder à ses avances. Et donc, Yosef, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup finalement d'actualité, hein, dans cette paracha. Yosef va être accusé à tort, condamné, envoyé en prison, et l'intrigue semble commencer à se dénouer, hein, vraiment à la fin de la paracha, dans les derniers versets de la paracha, puisque Yosef se retrouve dans la même cellule que le maître échanson et le maître panetier de Pharaon. C'est une histoire de rêve, hein, Jean, c'est intéressant, hein, on commence avec des rêves, et on termine avec des rêves, les rêves du maître panetier et du maître échanson, qui sont dans l'incapacité d'interpréter leurs rêves et qui vont donc demander à Yosef de donner une interprétation à ces rêves, une interprétation très différente pour l'un et pour l'autre. Et nous terminons donc cette paracha un petit peu avec un suspense insoutenable, puisque le maître échanson, lui, va être libéré et que Yosef attend de la part du maître échanson qu'il soit capable de rappeler son bon souvenir souvenir à Pharaon pour que lui également puisse quitter la prison.
On aurait pu en parler des milliers de fois, aussi bien pour Potiphar, qui apparemment a séduit Joseph suite à une lecture dans les étoiles. Hein. Elle devait avoir une descendance avec Joseph.
Tout à fait.
Et l'histoire du panetier où on dit que Joseph n'aurait jamais dû demander l'intervention d'un panetier plutôt que de HM.
De lui mettre les chansons.
Voilà,
tout à fait.
Voilà, on va fermer la parenthèse. Vous l'avez dit au début de la paracha, et c'est écrit clairement, Yosef préfère son Yaakov préfère son fils Yosef, et il le fait savoir et il le montre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à ce niveau-là ?
Il y a un petit problème, et Jean, vous venez de me dire que c'est Yaakov qui préfère Yosef. Il est intéressant de remarquer que dans la manière dont la Torah présente les choses, ce n'est pas Yaakov qui manifeste une préférence pour Yosef, mais Israël. Alors nous le savons, hein, depuis la semaine dernière, Yaakov a changé de nom. Il a changé de nom suite à sa victoire contre l'ange tutélaire d'Ésav. Il va une première fois recevoir de la bouche de l'ange tutélaire le nom d'Israël, qui sera confirmé un peu plus tard dans la paracha par Dieu lui-même, par Akadosh Baruch Hu. Alors ça change quoi ? Ça change que ce nom d'Israël donne une dimension tout à fait particulière à Yaakov, qui est, d'après nos maîtres, un petit peu sa dimension spirituelle. On peut retrouver deux dimensions chez Yaakov. Lorsqu'on veut insister sur la dimension spirituelle de Yaakov, on utilise le nom d'Israël. Et le fait que ce soit Israël qui jette en quelque sorte son dévolu sur Yosef, eh bien, cela pourrait nous donner une indication sur le rapport qu'entretenait Yaakov avec son fils Yosef, qui ne serait pas, contrairement à ce que l'on peut imaginer, bien tout simplement une préférence, parce qu'il avait un fils qui était plus brillant, ou un fils qui lui ressemblait un petit peu plus, ou un fils tout simplement avec lequel, eh bien, il y avait un peu plus d'affinité qu'avec les autres.
C'est le fils de sa vieillesse,
c'est ce qui est marqué. Alors, c'est le fils de sa vieillesse, mais vous savez que cette expression-là suscite un certain nombre de difficultés, et notamment certains commentateurs ont fait remarquer qu'en réalité, Yosef n'avait pas une grande différence d'âge avec ses autres frères. Il y a une grande différence avec Binyamin, qui naît 8 ans plus tard. Et c'est intéressant parce que finalement, le vrai fils de la vieillesse, c'est Binyamin. Or, Binyamin n'est pas mentionné ici. Vraiment, on insiste sur Yosef, qui est certes.
Mais il est né là, Binyamin.
Qui est certes le 12e enfant, hein, puisqu'il y a eu 11 garçons plus une fille d'Ina. Mais Yosef n'a pas une grande différence d'âge avec ses frères. Puisque toutes les naissances ont eu lieu les unes après les autres. Il a une certaine différence avec les aînés, avec Réhouven, avec Shimon, mais pas avec ceux qui sont nés juste avant lui. Et donc, ici, il faut y voir dans la relation particulière qu'entretenait Yaakov avec Yosef, plutôt une relation dans laquelle Yaakov comprend que Yosef, de par sa grandeur spirituelle, de par ce qu'il représente, va être amené à jouer un rôle particulier au niveau de la fratrie. Donc on n'est pas, encore une fois, dans une préférence qui serait vraiment une erreur d'un point de vue éducatif de la part d'un parent qui montre grossièrement qu'il préfère ses enfants parce que tout simplement il a plus d'affinité ou que cet enfant-là a l'air d'être un enfant modèle contrairement aux autres, mais tout simplement parce que, encore une fois, sur le rôle que Yosef a à jouer au niveau de la fratrie, et rappelons quand même que Yaakov est le premier des patriarches qui a eu la totalité de ses enfants qui vont s'inscrire dans son chemin, hein, ce qu'on appelle Mitato Shlema, eh bien, il y a quelque chose de particulier que Yaakov a décelé chez Yosef. Et tout cela est mis en exergue par l'utilisation du nom d'Israël plutôt que de celui de Yaakov.
Alors, dans cette paracha, on en a parlé aussi dans le résumé, Yosef va raconter ses songes à ses frères et à son père. C'est une question qui va intéresser nos auditeurs. Quand on a un rêve ou pas, un cauchemar, est-ce qu'on doit le raconter ? C'est quoi la règle ?
Alors, vous posez la question, c'est une question que tout le monde se pose parce qu'il y a quelque chose de très très mystérieux finalement dans le rêve. Et qui n'a pas été interpellé par un rêve ? Qui n'a pas été déstabilisé un matin en se levant, hein, soit par un rêve tout à fait extraordinaire ou joyeux, un rêve positif, soit au contraire par un rêve troublant parce qu'il annonçait soit un malheur ou un événement
malheureux,
particulièrement difficile à digérer. Alors, on le sait, on a dans le traité de Brachot tout un passage qui est consacré à l'interprétation des rêves, qui est d'ailleurs un passage très très énigmatique, hein, qu'il faut se donner la peine d'étudier avec les commentaires pour bien comprendre ce que signifie chacune des interprétations qui est donnée dans la Gemara de Brachot, où on a parfois des interprétations assez farfelues sur le sens des rêves. Ce qui est clair, c'est qu'il existe un sens à ces rêves. Toute la question, et c'est une question essentielle, Jean, dans notre paracha, est de savoir finalement comment on se positionne par rapport à cette interprétation. Est-ce que dans le rêve qui est celui de Yosef, Yosef ne fait finalement que partager publiquement ce qui lui apparaît ici comme une révélation, mais en n'ayant à aucun moment finalement la prétention de vouloir lui-même réaliser en quelque sorte ce rêve ou s'inscrire.
Alors, pourquoi il le raconte ? Alors, on raconte pas.
Alors effectivement, c'est une bonne question. Si Yosef sent que ce rêve peut exciter la jalousie de ses frères, il aurait peut-être pu choisir de le raconter d'une manière un petit peu différente. Ce qui est certain en tout cas, c'est que lorsque nous lisons le texte, Yosef ne fait que finalement, encore une fois, traduire le rêve, l'image qui lui est apparue, sans en donner une interprétation particulière, sans montrer qu'il a une volonté. Et ça va être finalement, c'est tout le point ici de c'est tout le point d'équilibre ici qui existe au début de cette paracha et qui va malheureusement faire basculer les frères dans une forme de jalousie. C'est d'aller au-delà finalement de l'interprétation qui est donnée ici par Yosef, c'est-à-dire imaginer que dans la présentation de ce rêve il y a une volonté affirmé de la part de Yosef de prendre le pouvoir au sein de la famille et de prendre le pouvoir en écrasant les autres. Or Yosef ne fait que présenter finalement une réalité. J'ai envie de dire que la concrétisation finalement de cette réalité qui est présentée par Yosef ne lui appartient pas. Mais c'est ce que dit Yosef finalement.
La question c'est, est-ce que quand on a un rêve dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on doit l'interpréter, est-ce qu'on ne doit pas l'interpréter, est-ce qu'on doit essayer de faire attention à l'interpréter de façon positive, ou il y a en général... On évite de raconter.
Il existe un principe de Hatavat Chalom qui fait que si quelqu'un est extrêmement dérangé par un rêve qui l'a perturbé, il a une possibilité d'annuler en quelque sorte ce rêve. Et donc c'est une courte cérémonie qui consiste à ne pas donner justement à casser un petit peu le crédit de ce rêve. Il faut être très très prudent. Il faut être très très prudent d'une manière générale, bien évidemment, avec les rêves, avec l'interprétation que l'on peut donner de ses rêves et s'inspirer tout simplement de cette histoire, de ce début de cette paracha de Vayeshev et des conséquences justement qu'un malentendu qui a pu exister sur l'interprétation d'un rêve. Alors encore une fois, tout à fait particulier ici dans un contexte particulier, c'est Yosef qui est en train de s'exprimer, donc on imagine bien que Yosef ne racontait pas tous les rêves qui lui passaient par la tête. Yosef a bien compris qu'au travers de cette vision, et on est dans la continuité, du grand rêve qui a déjà été celui de Yaakov. Et c'est très important Jean d'insister sur le fait que cette histoire de rêve ici au début de la paracha de Vayeshev n'est pas la première histoire de rêve qui est rapportée par la Torah. La première histoire de rêve, celle qui va là aussi être un tournant dans l'histoire du clan d'Israël, c'est le rêve de Yaakov. Lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il dort et qu'il voit ce rêve de l'échelle. La paracha de Vayeshev n'est qu'une continuité, en quelque sorte, du rêve qui a été celui de Yaakov.
Alors, on le voit, on va raconter toute l'histoire. Finalement, Yosef va rejoindre ses frères et ses frères veulent le tuer. Moi, je suis un peu étonné de trouver que la jalousie mène au meurtre. Quand on sait qui c'est qui.
Jean, la jalousie mène au meurtre depuis le début de la paracha de Bereshit, avec le meurtre d'Evel par son frère Caïn.
C'est quand même des gens qui sont futurs chefs de tribu, futurs responsables de la création du peuple juif. Franchement, c'est incompréhensible.
Alors, encore une fois, une lecture superficielle paraît totalement incompréhensible. Effectivement, on a affaire ici aux représentants des 12 tribus, donc pas n'importe qui, des gens qui vont être à la tête finalement de toute l'histoire, pas simplement de la leur, mais de toute l'histoire à venir effectivement du peuple juif. Et donc on peut se poser la question et se demander comment est-ce qu'ils ont pu réagir de manière impulsive, c'est ce que semble présenter le texte, et avec une certaine forme peut-être ici aussi de parti pris, et une réaction qui semble démesurée. Voilà, sauf qu'une lecture, encore une fois, plus poussée des choses, nous montre que suite à l'interprétation qui était la leur, Yosef représentait un danger pour l'unité familiale. Alors il y a une mauvaise interprétation, c'est ce que nous verrons, Jean, à la fin de cette paracha et dans les sidrotes suivantes, et notamment celle de Miketz la semaine prochaine, où Yosef, de manière très habile, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, beaucoup de pertinence, mettra en place tout un programme, qui est un programme vraiment de travail sur soi, de travail personnel, pour permettre à ses frères de prendre conscience de leur erreur, de cette erreur d'interprétation.
Dans les commentaires,
mais
on
pour
dit
les
que...
frères, je termine simplement avec ça, pour dire que pour les frères, si cette... Si cette décision qui est prise est une décision aussi radicale, c'est tout simplement parce que la halakha l'impose. Lorsque vous avez une personne qui cherche ici à intenter, en quelque sorte, à l'unité ici familiale, eh bien, nous avons un devoir de faire en sorte d'éliminer ce danger. Cette personne vient pour me tuer, et c'est un peu comme ça que les frères comprennent la menace de Yosef. Une personne qui cherche à les tuer, eh bien, ils ont un devoir de se défendre.
On va vous inviter évidemment à continuer à étudier cette paracha, parce qu'on a, on l'a dit, pas la Coupe du Monde, mais Hanouka qui commencera dimanche soir. Et ce
pendant... Il ne faut pas se tromper de priorité, vous avez raison de le rappeler, voilà. Jean. Et alors, l'événement de dimanche, c'est Hanouka.
C'est Hanouka avec l'allumage des bougies pendant 8 jours, c'est-à-dire bougies veilleuses, comme on dit.
Bougie veilleuse, je rappelle que pour ceux qui en ont la possibilité, hein, il y a une tradition, hein, d'allumer les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, tout simplement pour s'inscrire, hein, dans le miracle qui a été celui de l'histoire de Hanouka, puisque la menorah du temple qui a été allumée suite à la victoire militaire des Grecs, des Hashmonaïm contre l'armée grecque, eh bien, se faisait avec de l'huile d'olive. Donc quand on en a la possibilité, on doit utiliser de l'huile d'olive, bien évidemment. Pour ceux qui n'en ont pas la possibilité, on peut tout à fait se rendre quitte de l'allumage des bougies de Hanouka avec des bougies en cire, ouais, à condition bien sûr qu'elles puissent durer au moins une demi-heure après la tombée de la nuit.
Alors vous avez devancé de mes questions, donc on va faire par la deuxième. Vous avez parlé de menorah et nous on parle de Hanoukia. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui...
Alors le terme de Hanoukia, Jean, figurez-vous que c'est un terme qui est extrêmement moderne, hein, c'est un terme qui est issu de la langue de l'ivrite, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est que la Hanoukia? La Hanoukia, c'est tout simplement l'objet avec lequel nous allons allumer les bougies de Hanouka, qui, contrairement à la menorah, contient 8 branches, plus un 9e emplacement qui est celui du shamash. Hein, c'est cette 9e bougie que nous allumons, qui ne fait pas proprement partie des bougies de Hanouka.
On l'allume avant, après le shamash?
C'est une éternelle et grande question. Chacun, ça n'a pas d'importance. Voilà. Celui qui va allumer les bougies avec le shamash, à l'aide du shamash, bien évidemment, allumera le shamash en premier. Si on allume le shamash en dernier, si on ne se sert pas du shamash qui est sur la Hanoukia pour allumer les autres bougies, on peut l'allumer en dernier. Certains commencent même par allumer le shamash avant de faire les brachot de la Hanoukia, parce que comme ça le shamash est déjà allumé. Et lorsqu'on fait les bénédictions et qu'on allume, on allumera que les bougies de Hanouka à proprement parler. Donc oui, différence entre Hanoukia et menorah. La menorah, c'est l'ustensile qui était présent dans le temple. C'est ce chandelier à 7 branches qu'on avait l'habitude d'allumer tous les jours dans le temple. La Hanoukia, c'est l'objet avec lequel nous allons allumer les 8 bougies en souvenir du miracle de l'allumage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, en souvenir du miracle de l'allumage de la menorah qui a duré 8 jours, alors qu'en réalité, il n'aurait dû durer qu'une seule journée. Donc bien sûr, si quelqu'un a une menorah chez lui à cette branche, elle sera totalement inapte pour les bougies de...
Il faut une
Hanoukia, mais en réalité, on pourrait s'en sortir même sans Hanoukia, hein, je le dis. Il peut arriver que des personnes soient en déplacement, Jean, et qu'elles n'aient pas la possibilité de se procurer une Hanoukia, auquel cas il suffirait d'aligner le nombre de bougies correspondant au soir pour qu'on puisse tout simplement se rendre quitte de l'allumage des bougies de Hanouka. Donc même sans Hanoukia, même sans cet objet qui est devenu un objet culte, hein, puisqu'on en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes, dans tous les matériaux possibles et inimaginables, et on a tous nos enfants aussi qui au GAD ou au primaire nous rapportent des Hanoukiotes qu'ils ont fabriqués dans les ateliers de travaux manuels, on peut en réalité se passer de Hanoukia pour se rendre quitte de l'allumage des bougies de Hanouka.
Alors, vous l'avez dit, la menorah est dans le Beit HaMikdash. À l'époque, il fallait l'allumer tous les jours. En fait, dans l'histoire, on ne dit pas comment ça s'est passé vraiment. Est-ce qu'on a mis une fois toute la fiole qui restait dans le premier godet, ou est-ce qu'on a mis un tout petit peu de la fiole qui restait dans les huit bougies? Comment ça s'est passé? Vous avez une idée?
Alors, votre question est excellente, et votre question en réalité s'inscrit dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la fameuse question du Beit Yosef. Qu'est-ce que la fameuse question du Beit Yosef? C'est une question qui consiste à se demander pourquoi est-ce qu'on célèbre 8 jours de Hanouka et non pas 7 jours puisque la Gemara, le Talmud qui vient nous raconter l'histoire de Hanouka, nous dit lui-même que dans cette fiole qui a été retrouvée miraculeusement, il y avait de quoi allumer pendant un jour. Et s'il y avait de quoi allumer pendant un jour, eh bien le premier jour n'est pas un miracle. C'est le deuxième jour qui a été le premier jour du miracle et les six jours suivants. Donc en réalité, on a uniquement sept jours de miracle. Si on a sept jours de miracle et qu'on veut célébrer un miracle, on aurait dû célébrer Hanouka pendant sept jours et pas pendant huit jours. À cela, un très très grand nombre de réponses qui sont rapportées par nos maîtres. On a des centaines de réponses différentes qui sont rapportées. Une réponse classique consiste à dire que le huitième jour de Hanouka, alors peu importe le premier ou le huitième, eh bien correspond à la victoire militaire et qui était aussi un miracle et qui est peut-être le miracle par excellence de Hanouka. Une petite armée qui a réussi à prendre le dessus sur une grande armée, une armée plus puissante, une armée plus entraînée, et donc c'était déjà un miracle en soi. Mais une autre manière de répondre à cette question, Jean, est de dire qu'effectivement, eh bien, on avait décidé, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile disponible, de diviser la petite fiole qu'on a trouvée en huit fioles, ou en tout cas huit petites quantités d'huile, et donc qu'on a versé le premier jour uniquement un huitième de l'huile qui se trouvait dans la petite fiole qui avait été retrouvée. Et donc si on a versé un huitième et que la menorah a malgré tout brûlé, eh bien c'est qu'elle a pu, c'est que donc le miracle était déjà présent et était déjà visible le premier jour. Donc on a plusieurs interprétations, genre d'autres disent qu'en réalité pas du tout, toute l'huile a été versée dès le premier jour, mais qu'on s'est rendu compte, genre à la fin du premier jour, eh bien qu'au lieu de se consumer entièrement, eh bien chaque godet ne s'était consumé que d'un huitième de l'huile qui avait été versée. Donc il y a plusieurs interprétations possibles. Comment est-ce que les choses se sont passées de manière concrète, réelle, ça je serais incapable de vous le dire, puisque ce sont les différentes idées qui sont avancées pour répondre à cette fameuse question du Bet Yosef.
Alors on nous demande d'allumer le soir. Imaginons que je rentre à minuit, il fait tard le soir, est-ce que je peux encore allumer la chroniqueur ?
Là aussi, bonne question, puisque la halakha nous dit qu'en principe, il faut allumer à partir du moment où les gens sont encore présents dans la rue, puisqu'il y a cette dimension de ce que l'on appelle pirsoumenissa, c'est-à-dire, ou pirsoumanes en hébreu, pirsoumenissa en araméen. Donc c'est la même chose, qui veut dire diffusion du miracle. Alors cette diffusion n'est possible qu'à partir du moment où des gens peuvent assister à cette diffusion du miracle. Mais encore une fois, tout cela, Jean, avec des nuances, puisque ça dépend, est-ce que j'allume à la fenêtre, ça dépend, est-ce que j'allume à l'extérieur, comme je devrais le faire à l'entrée de ma maison, si j'en ai la possibilité, pour une maison individuelle ou quelqu'un qui habite en rez-de-chaussée. Et donc, à partir du moment où quelqu'un allume à l'intérieur, de toute façon, le pirsouma nes ne se fera qu'au travers des membres de la maison. Donc, bien sûr, si je rentre tard, je dois encore allumer la Hanoukia, mais bien sûr, de préférence pour faire les brachot, à condition qu'une personne de la famille soit réveillée. Donc, il est bien de pouvoir réveiller quelqu'un de la... Enfin, ou en tout cas, avoir avec soi quelqu'un à la maison qui puisse à ce moment-là assister à l'allumage de cette Hanoukia. Donc, je rappelle, Jean, néanmoins, qu'il y a vraiment un intérêt tout à fait particulier à allumer la Hanoukia le plus tôt possible. Donc quand je dis le plus tôt possible, c'est-à-dire à partir de la tombée de la nuit, mais ne pas traîner. Voilà, ne pas attendre 9h ou 10h du soir. Actuellement, la tombée de la nuit, la sortie des étoiles se situe aux alentours de 5h25, 17h30. Vous pouvez consulter bien sûr les calendriers en ligne. Et donc j'invite toutes les personnes qui en ont la possibilité à allumer vraiment dès la sortie des étoiles. On ne traîne pas lorsqu'il faut accomplir une mitzvah, on l'accomplit avec zèle et on ne repousse pas cette mitzvah. Je sais que c'est difficile, des gens travaillent encore souvent au moment de l'allumage de la Hanoukia en hiver lorsque la nuit tombe tôt, mais vraiment il est important de faire cet effort, de pouvoir allumer le plus tôt possible.
Alors, l'Halakha nous dit d'allumer la Hanoukia de gauche à droite, qu'il faut allumer d'abord la nouvelle bougie. Ça devrait être le contraire.
Pourquoi le contraire, Jean ?
De droite à gauche, en allumant la première bougie.
Et pourquoi de droite à gauche ? Pourquoi pas, alors allumer effectivement, allumer. Alors parce que pourquoi ? C'est très simple, Jean. On allume parce que de gauche à droite, on va vers la droite. Et ça, c'est un grand principe. Finalement, la droite chez nous représente l'attribut de noblesse, de gvoura, de force de la part d'Akadosh Baruch Hu, de la part de Dieu. Et donc, il y a toujours chez nous, dans la tradition juive, une noblesse et une importance tout à fait particulière qui est accordée à la droite. D'ailleurs, on nous dit que lorsqu'un homme ne sait pas où aller, il doit toujours choisir d'aller du du côté droit, parce que le côté droit est le côté qui représente d'une certaine manière la force. Alors on va me dire, mais c'est un peu discriminatoire vis-à-vis des gauchers, hein, de dire que la droite c'est toujours le bras fort. On a beaucoup de personnes qui sont des gauchers. Ça serait un petit peu maintenant long de faire un développement pour expliquer toute cette notion du yémin dans notre tradition. Mais donc cela explique pourquoi est-ce que lorsqu'on allume, on va aussi de gauche à droite, on va toujours vers la droite, hein. De la même manière qu'on commence avec une bougie, on suit l'avis de Beth Hillel, on commence avec une bougie et on augmente le nombre de bougies chaque soir, eh bien, le fait d'aller de la gauche vers la droite, c'est aussi une invitation, hein, à aller vers la force, aller vers un côté qui soit un côté qui nous, voilà, qui nous porte, qui nous permette de nous élever. Et allumer la nouvelle bougie, je pense que c'est quelque chose qui a l'air, enfin, qui semble être en tout cas tout à fait logique. On donne priorité à la bougie du soir. À partir du moment où nous allumons ce qu'on appelle méhadrine, hein, ou méhadrine mina méhadrine, c'est-à-dire dans l'excellence, on ne se contente pas d'une bougie, mais on fait en sorte que chaque jour le nouveau miracle puisse être mis en avant, eh bien, il est tout à fait normal de donner priorité à la nouvelle bougie.
Alors, dans la prière, il y a des nouveautés, il y a des choses qu'on rajoute. Il y a évidemment dans l'Amida Alanissime, qui est un peu un extrait qu'il faut rajouter. Le matin, on fait la prière, montée au Sefer Torah, et il y a le Hallel. Il n'y a pas de moussaf de Hanouka.
Il n'y a pas de moussaf de Hanouka, tout simplement parce que le moussaf, la prière de moussaf que nous récitons, aujourd'hui notamment je pense à Shabbat, je pense à Rosh Chodesh, hein, le jour de la Néoménie, ou au jour de fête, est une prière qui a été instituée en contrepartie du sacrifice de moussaf qui était propre à chacun de ces moments. Il y avait un sacrifice particulier qui était apporté à Shabbat, un sacrifice particulier apporté à Rosh Chodesh, sacrifice particulier qui était apporté les jours de fête. Il n'y avait pas de sacrifice particulier de moussaf apporté durant la fête de Hanouka. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a donc pas d'institution d'office de moussaf à Hanouka, ce qui a d'ailleurs une incidence sur le Kaddish. Il y a une incidence sur le Kaddish, et il arrive très souvent que les officiants se trompent à ce moment-là. C'est que les jours de moussaf, comme le Shabbat, comme le jour de Rosh Chodesh, ou comme les jours de fête, et lorsque nous récitons le Hallel, eh bien, nous récitons après à la fin de la Hamida, ou à la fin du Hallel, pardon, le Kaddish complet. Or, à Hanouka, puisqu'il n'y a pas d'office de Moussaf, à la fin du Hallel, nous ne récitons que le Khatsi Kaddish, que le demi Kaddish, le grand Kaddish étant récité, lui, à la fin de la Tfila, hein, après Ouval Etzion. Donc il y a ici une petite subtilité qui est tout à fait propre à Hanouka, qui est de ne pas réciter à la fin du Hallel le grand Kaddish, mais ce qu'on en appelle le Khatsi Kaddish, le petit Kaddish.
Vous pouvez le dire à votre ministre officiant s'il a oublié. Hanouka, c'est souvent, on le dit, la lumière dans l'obscurité. C'est quoi votre message dans ce Hanouka ? Qu'est-ce que vous devriez dire ?
Mon message, il est de ne pas mettre de côté le miracle de la victoire militaire, comme je l'ai dit. On a tendance vraiment à focaliser un petit peu sur le miracle qui a été celui de la fiole d'huile, qui est effectivement une très belle histoire et la très belle symbolique de cette lumière, et de cette lumière qui grandit et qui, plus on l'alimente, et bien plus elle arrive à éclairer. Mais ne pas oublier que Hanouka, c'est avant tout l'histoire d'une poignée d'utopistes qui ont cru en l'avenir du judaïsme, qui ont insisté sur le fait que cette histoire, voilà, ne pouvait pas s'arrêter, qu'on ne pouvait pas tuer spirituellement cet héritage, et qui, fort de cela, ont réussi à prendre le dessus sur cette armée grecque. Ce n'est pas simplement une histoire de force physique, mais vraiment une histoire, encore une fois, d'abnégation, une histoire de motivation, et une histoire de personnes qui croyaient en leur histoire, qui croyaient en leur destin. Et je crois que c'est cela l'histoire de Hanouka, et dans des temps extrêmement troubles, eh bien, savoir qu'à partir du moment où nous sommes convaincus de cette histoire, où nous sommes convaincus de ce devoir de renforcer notre identité, de continuer à alimenter notre identité, eh bien, tous les miracles peuvent se produire, et nous pouvons en tout cas avoir énormément d'espoir quant à l'avenir de notre peuple.
Très beau message, M. Grand Rabbin. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine. On sera d'ailleurs, je crois, la veille de Rosh Chodesh, et on sera, me semble-t-il, encore pour Hanouka.
Tout à fait.
Voilà. La semaine prochaine, rendez-vous. Merci, Shabbat Shalom. Merci à Thomas pour la réalisation technique. À vous tous, Shabbat Shalom et bonne fête de Hanouka.
see you, they'll prepare for shop.